Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un enregistrement réalisé il y a 50 ans pour le label Alligator Records. Ce premier album de guitariste et chanteur Hound Dog Taylor fut aussi la première production de notre invité du jour qui, depuis 1971, veille sur la destinée de dizaines d'artistes blues qu'il protège et défend avec l'enthousiasme et la rigueur de sa longue expérience professionnelle. Nous avons le bonheur d'accueillir Bruce Iglauer. Soyez le bienvenu. Welcome.
Thank you. I'm glad to be here, Joe.
Vous êtes avec nous depuis vos bureaux de Chicago et nous allons célébrer avec vous un demi-siècle de musique puisque le label Alligator Records vit le jour en 1971. Quelle était votre intention au départ ?
I had fallen in love with a band.
En fait, j'étais devenu un fan du groupe qui accompagnait Hound Dog Taylor. J'avais découvert cet artiste par hasard dans un petit club du quartier noir de Chicago. La musique m'a tellement emballé. Elle était si énergique, joyeuse et brute que je me suis dit qu'il fallait absolument enregistrer cet artiste. J'ai donc décidé de monter mon propre label pour enregistrer mes groupes favoris. Et depuis 50 ans, j'enregistre mes groupes favoris.
Grâce à vous, Hound Dog Taylor a enregistré son premier disque à l'âge de 56 ans. Jusque-là, personne ne s'intéressait à lui. Y avait-il en vous une forme de militantisme, d'engagement personnel pour le patrimoine noir en décidant de lui offrir son premier album ?
Pour être honnête, je ne m'intéressais pas vraiment aux problèmes raciaux que rencontrait l'Amérique d'alors. Pour moi, seul le blues comptait. Depuis que j'avais vu Mississippi Fred McDowell en 1966, je n'écoutais que de la musique noire américaine. Certains avaient un succès retentissant qui dépassait le cadre de la communauté noire. Je pense notamment à B.B. King et Muddy Waters. Par conséquent, mon idée initiale était de toucher un public jeune comme moi, car je n'avais que 23 ans à l'époque. Cette génération-là avait découvert le blues à travers des artistes britanniques comme Eric Clapton, John Mayall dans les années 60. Au début, je ne pensais même pas enregistrer d'artistes blancs, car pour moi, seuls les Noirs américains pouvaient revendiquer cette musique, le blues. Cela faisait partie de leur identité, et à mes yeux, ils étaient tout simplement les meilleurs.
Bruce Iglauer, vous êtes un passionné de blues. Comment étiez-vous perçu par la communauté noire en tant que producteur blanc au début de l'aventure Alligator Records?
I had come to Chicago in 1970 as a blues pilgrim.
Quand je me suis installé à Chicago en 1970, j'étais juste un fan de blues qui écumait les clubs de la ville, principalement dans les quartiers noirs. D'ailleurs, j'étais souvent le seul blanc dans le public. Progressivement, les artistes se sont habitués à me voir dans la foule. Pour eux, j'étais un fan de plus parmi les amateurs de blues. Quand j'ai rencontré Hound Dog Taylor et que je lui ai proposé d'enregistrer un disque pour mon jeune label, Sa réaction fut enthousiaste, car il m'avait déjà vu des dizaines de fois quand il se produisait sur scène. Il ne pouvait pas douter de ma réelle passion pour le blues. Il est vrai que les musiciens étaient méfiants dès que vous faisiez partie de l'industrie discographique. Certains ont d'ailleurs été très réticents à l'idée de travailler avec moi, non pas parce que j'étais blanc, mais parce que j'étais producteur de disques.
On parle beaucoup du mouvement Black Lives Matter aujourd'hui aux États-Unis. Diriez-vous que Alligator Records était un label en avance sur son temps ?
Disons que j'ai toujours été conscient du fait que les musiciens noirs que j'enregistrais avaient un discours destiné à panser les plaies de la ségrégation. Pour moi, le blues est une forme d'expression qui apaise notre âme et notre esprit. Il était pour moi évident que je devais respecter la musique autant que l'artiste qui la produisait. J'ai donc adopté une attitude révérencieuse à l'égard de tous ces musiciens. Mais je n'y voyais pas d'engagement politique particulier. Je voulais juste faire connaître cette musique car elle évoquait d'elle-même les enjeux sociaux de l'Amérique d'alors.
I wanted to share the music, and I thought the music would speak fine for itself without me interpreting it.
Au fil des années, Bruce Iglauer, vous avez permis à de nombreux artistes de gagner en notoriété et de devenir des figures de l'épopée des musiques noires. Je pense à Albert Collins, Lonnie Brooks, James Cotton, Coco Taylor, Luther Allison, Lucky Peterson et plus récemment Shemeika Copeland ou Solwyn Birchwood. Est-ce qu'un producteur peut lier amitié avec un musicien ou doit-il conserver la distance du professionnel pour rester juste et intègre ?
I call Alligator a family.
J'ai toujours considéré que le label Alligator Records était une famille de musiciens. Je ne vois pas mon entreprise comme une maison de disques traditionnelle. Alors oui, les artistes signent des contrats, mais c'est à nous, dès lors, de nous occuper du reste. Ils doivent nous faire confiance, et cela implique une écoute et une entente cordiale réelle. J'ai été très proche de certains d'entre eux, et j'ai également eu des rapports beaucoup plus distants, professionnels, dirons-nous, avec d'autres. Pour vous donner une idée de l'esprit de famille qui règne chez Alligator, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, le jour de mon 60e anniversaire, j'ai passé des heures à la prison Cook Country de Chicago à essayer de faire sortir l'un des artistes du label qui avait été arrêté sans réel motif par quelques policiers blancs trop zélés. C'était la première fois qu'il se retrouvait dans une cellule et j'ai considéré qu'il était de mon devoir en tant que président d'Alligator Records et chef de famille de le sortir de là. J'y suis parvenu et je lui ai proposé de passer la soirée à la maison. Je ne me voyais pas lui offrir une chambre d'hôtel et le laisser cogiter seul sur sa mésaventure. Il était si bouleversé par ce qui venait de lui arriver. Cela me semble naturel de me comporter ainsi. Je me dois de répondre présent aux difficultés des artistes que j'ai signés. Si l'un d'entre eux m'appelle au milieu de la nuit parce que sa voiture est tombée en panne pendant sa tournée américaine, si un autre me réveille pour me chanter au téléphone une mélodie dont il est fier, je me dois d'être à l'écoute. C'est mon rôle.
De quel artiste vous êtes-vous senti le plus proche au fil des années et pourquoi ?
Très bonne question. J'ai entretenu de très bonnes relations avec beaucoup d'artistes du label. Je pense cependant être resté très proche de la reine du blues, Coco Taylor. J'étais à ses côtés lorsqu'elle a enregistré ses plus célèbres chansons, comme « I am a woman » par exemple. Je me souviens parfaitement de cette session d'enregistrement, car quelques heures plus tôt, elle m'avait demandé de lui rendre visite chez elle pour qu'elle me chante cette mélodie et ce texte dont elle était très fière.
Bruce Iglauer, on ne l'a pas encore précisé, mais le 50e anniversaire d'Alligator Records s'accompagne d'un coffret de 3 CD ou de vinyles réunissant les principaux protagonistes de cette aventure musicale inédite. Et je ne résiste pas à l'envie d'écouter justement la personne que vous citiez il y a quelques instants, Coco Taylor, en 1978, interprétée I'm a Woman. Quel souvenir avez-vous de cette session d'enregistrement ?
It was only the 11th or 12th record that I had done.
Cette séance de studio était la 11e ou 12e dans l'histoire du label. J'ai travaillé de concert avec Coco Taylor. Elle voulait absolument avoir à ses côtés les musiciens qui partageaient la scène avec elle lorsqu'elle était sur la route. Nous avons donc choisi ses accompagnateurs avec beaucoup d'attention. Nous avons commencé à sélectionner les titres de son nouvel album. Il y avait autant d'adaptations que de chansons originales. Elle a par exemple repris le célèbre standard « Let the Good Times Roll » ainsi que son ancien tube « Wang Dang Doodle » enregistré en 1966 pour le label Chess. « I'm a Woman » était la chanson dont elle était la plus fière. Elle voulait proposer une relecture féminine des grands classiques du blues comme I'm a Man de Bo Diddley ou Manish Boy de Muddy Waters. Elle voulait enregistrer un hymne à la gloire des femmes. Et elle voulait dénoncer le statut de citoyenne de seconde classe qu'elle subissait depuis si longtemps. Elle avait donc en tête de faire paraître une chanson interprétée par une femme forte. Comme je vous le disais, je me suis donc retrouvé chez elle à l'écouter chanter et j'ai su presque instantanément que cette chanson allait marquer les esprits. Nous avons donc passé une dizaine d'heures en studio. Tous les musiciens jouaient ensemble. Nous n'avons rien ajouté en post-production. Coco Taylor chantait à gorge déployée, accompagnée par ses musiciens comme si elle était sur scène. D'ailleurs, j'adore enregistrer dans ces conditions-là. On a quasiment l'impression d'être dans un club de blues. C'est une impression que l'on ne peut pas retrouver sur un album trop produit.
Voici I'm a Woman, Coco Taylor.
Everything gonna be all right. Oh, yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul.
I'm a Woman, extrait de l'album The Earth Shaker, paru à l'origine en 1978 sur le label Alligator Records, que nous célébrons aujourd'hui à l'occasion de son cinquantenaire en compagnie de son fondateur Bruce Iglauer. J'imagine qu'au fil du temps, vous avez vécu des séances d'enregistrement plus ou moins faciles. Y a-t-il des moments épiques que vous garderez en mémoire ?
Oh, il y en a beaucoup que je n'oublierai jamais. L'une d'elles qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la première session d'enregistrement avec Leadhead and the Blues and Pearls. Nous ne cherchions pas à enregistrer un album complet. Je les avais fait venir en studio uniquement pour enregistrer deux chansons destinées à une compilation consacrée aux jeunes talents de Chicago, parue en 1995. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans un studio d'enregistrement professionnel. Ils étaient donc très impressionnés. Ils ne connaissaient rien aux techniques d'enregistrement, mais nous avions installé du matériel pour qu'ils se sentent immédiatement à l'aise. Je leur ai dit de brancher les guitares et de se laisser aller comme s'ils étaient sur scène. J'ai même ajouté, ne vous inquiétez pas du volume sonore, ni de la distorsion du son, faites-vous plaisir. Je n'avais pas précisé qu'ils pouvaient recommencer plusieurs fois, car je voulais obtenir une seule prise, la plus authentique possible. Comme ils étaient débutants, j'avais réservé 4 heures de studio pour deux chansons. Comme les autres artistes prévus pour la compilation avaient pleinement utilisé leurs 4 heures de studio, je me suis dit que pour Leadhead and the Blues in Pearls, cela devait suffire amplement. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'ils réussissent à enregistrer leurs deux chansons en 20 minutes. Je me retrouvais donc avec 3h40 de studio disponible. Je leur ai donc suggéré d'enregistrer quelques titres supplémentaires.
And Ed and the band launched into a show.
Et là, j'ai vu Lil Ed et ses musiciens commencer un véritable show en studio. J'étais dans la régie technique et je voyais Lil Ed se rouler par terre, se mettre à genoux, sautiller un peu partout et s'emparer du micro tel un vrai professionnel. En 3 heures, Lil Ed et les Blues Imperials ont enregistré une trentaine de chansons. Nous avons choisi les 10 meilleures et nous avons sorti leur premier album. Depuis, Lil Ed ne nous a pas quittés. Il est l'un des artistes majeurs de notre label depuis plus de 30 ans. Il est devenu un très bon ami et nous avons fait paraître 9 de ses albums depuis 1986 en respectant toujours notre mode de travail initial, à savoir tout le monde dans le même studio. La seule différence, c'est que désormais, nous leur demandons de répéter un peu à l'avance.
Brucey Glover, on dit que l'harmoniciste Junior Wells n'était pas un personnage facile et qu'il lui arrivait d'intimider ses interlocuteurs en brandissant un pistolet en studio. Est-ce que vous confirmez ?
Je dois d'abord vous dire que j'ai rencontré Junior Wells avant de m'installer à Chicago. Je ne venais que le week-end dans cette grande ville pour écouter des musiciens dans les clubs de blues. Bob Koester, le regretté fondateur des disques Delmark, qui fut mon premier employeur, m'avait présenté Junior Wells. Ainsi, quand je suis revenu le voir jouer plusieurs fois, il me considérait comme l'ami de Bob. Au fil du temps, une complicité est née, et il est devenu mon protecteur quand je le retrouvais dans des bars malfamés de la banlieue de Chicago. Je dois reconnaître qu'il lui arrivait d'être assez agressif avec ses contemporains, mais jamais avec moi. Oui, il lui arrivait d'avoir un pistolet et un couteau sur lui, et il n'avait pas peur de les utiliser. Cela dit, Junior Wells est devenu un bon ami. Il s'amusait même à intimider mes interlocuteurs pour les contraindre à me payer un verre lorsque nous discutions au bar d'un club. Je ne lui demandais rien. Il s'amusait à provoquer ce genre de situation. N'oubliez pas que Junior Wells a fait partie de gangs durant sa jeunesse, au début des années 50. Mais il fut aussi un très grand musicien dès son plus jeune âge. Il a rejoint l'orchestre de Muddy Waters alors qu'il n'était qu'un adolescent.
Est-ce que ça veut dire que le blues est l'expression d'un mal-être, ou est-ce que le blues peut être joyeux et positif comme le gospel ?
Quand je suis arrivé à Chicago, je discutais avec des musiciens et ils me répétaient souvent la chose suivante. Le blues n'est pas une musique triste. Jouer ou écouter le blues vous permet de chasser la déprime, de chasser le blues. Pour moi, le blues a deux visages, celui de la danse et de la fête. Je pense notamment à Hound Dog Taylor ou certains titres de Coco Taylor. Mais il peut être aussi une forme d'expression sérieuse qui évoque un quotidien beaucoup plus sombre. Les chansons tristes des artistes blues vous prouvent que vous n'êtes pas seul à ressentir des moments de déprime. Je compare souvent le blues à une éponge que l'on presse. Quand l'eau sort de l'éponge, c'est votre chagrin et votre douleur qui s'en vont. Et serait cette éponge pleine de blues accumulée peut-être pénible, mais quand l'eau s'écoule enfin, vous vous sentez mieux. N'oublions jamais que le blues a été créé par des hommes et des femmes noires dans le sud des États-Unis qui ont été opprimés durant toute leur vie, tant au niveau économique que social. Ils n'ont jamais obtenu le statut de citoyen américain à l'égal des Blancs. Par conséquent, leur niveau de vie était très bas et leur éducation était défaillante. Les écoles destinées aux étudiants noirs ne recevaient évidemment pas les budgets gouvernementaux suffisants. Beaucoup de jeunes ont dû abandonner leur scolarité pour travailler. Coco Taylor a quitté très tôt les bancs de l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. C'était une question de survie. Le blues a donc été créé par des gens opprimés, non pas pour se sentir misérable, mais pour chercher le bien-être.
Pour moi, le plus africain des artistes américains, c'est Corey Harris, que vous avez signé en 1995. Il est à mes yeux l'exemple parfait du bluesman enraciné dans la tradition. Qu'en pensez-vous, Brucey Glover ?
Corey is a very interesting artist because he sees the blues as part of.
Corey Harris est un artiste très intéressant. Il considère le blues comme une émanation de la diaspora africaine dans le monde. Pour lui, le blues, le reggae, le jazz, le hip-hop font partie du même arbre. Il a vécu sur le continent africain. Je crois qu'il a passé beaucoup de temps au Mali alors qu'il était étudiant. Il a donc eu l'opportunité de se nourrir des cultures africaines et considère que son expressivité repose sur un passé africain. Il y croit profondément. Lorsque je l'ai signé sur le label Alligator, il devait enregistrer un album de blues rural traditionnel, ce qu'on appelle le blues du Delta du Mississippi. Il est l'un des rares artistes capables d'interpréter le blues des origines comme les pionniers d'antan. Quand je l'entendais interpréter une chanson de Son House, j'avais l'impression d'entendre le son des années 30. Je me disais que l'esprit de Son House devait être dans le studio. Dès le second album, j'ai compris qu'il voulait prendre une autre direction. Il a fait appel à une section de cuivre de la Nouvelle-Orléans. Il a intégré des rythmes caribéens dans son répertoire. Lorsqu'il s'est attelé au troisième album, il a à nouveau multiplié les sources d'inspiration africaine. Au départ, je ne parvenais pas à apprécier sa musique. J'avais l'impression qu'il s'éloignait de l'idée que je me faisais du blues. J'ai donc pris le temps d'écouter et de réécouter ses enregistrements et j'ai enfin compris son point de vue artistique. Corey Harris ne vit plus aux États-Unis. Je crois qu'il séjourne désormais en Italie, mais il est toujours un artiste productif, original, passionnant. Il y a beaucoup de profondeur dans son âme de musicien.
And make some very fascinating music. He's a very deep man.
Dans le coffret anniversaire du label Alligator Records, vous avez sélectionné l'un de ses enregistrements en duo avec le pianiste et chanteur Henry Butler. Et l'humeur est davantage gospel. Je vous propose, Brucey Glover, d'écouter la ferveur gospel de deux piliers du label Alligator Records, Corey Harris et Henry Butler.
Don't you live so dark and usual anywhere long, anytime. Don't you live so dark and usual anywhere long, anytime. Or don't you think so dark and usual anywhere long, anytime. Don't you think so dark and usual anywhere, long, anywhere, long, anytime. Don't you walk so dark and use anywhere, long, anytime. Don't you walk so dark and use you anywhere, long, anytime. Why don't you talk so dark and use you anywhere, long, anytime, time, time. Or don't you walk so dark, dark and use you anywhere, long, long, anytime. Good gosh, somebody anywhere, Lord, and Lord have mercy on us, Dr. Marty.
Why Don't You Live So God Can Use You, Corey Harris et le regretté Henry Butler en 2000 sur l'album Voodoo Men's, dont vous retrouverez un extrait dans le coffret Alligator Records. Brucey Glover, parlons un peu d'aujourd'hui. L'une de vos plus talentueuses recrues ces dernières années, c'est Kristen Kingfish Ingram. Il n'a que 22 ans. Pourquoi croyez-vous en lui ?
Tout simplement parce qu'il est déjà en train de devenir une star. Son premier album a été enregistré alors qu'il n'avait que 18 ans. Et pourtant, vous pouvez déjà ressentir toute la maturité de cet artiste. J'ai découvert Kingfish lors d'un festival en Arkansas. Il n'avait que 14 ans et jouait de la guitare comme personne. Je le trouvais cependant un peu trop bavard sur sa guitare. À l'époque, il considérait que les paroles des chansons n'étaient pas une priorité. Quelques années plus tard, son jeu s'était affiné. Il donnait plus d'espace à ses solos de guitare. Il parvenait davantage à raconter une histoire, à transmettre des émotions à travers sa musique. Il a commencé à raconter sa vie en musique. Kingfish vient de Clarksdale, dans le Mississippi, le cœur battant du blues. Il a grandi dans une famille pauvre. Ses parents se sont séparés alors qu'il n'était qu'un enfant. Il a vécu avec sa mère parfois dans la rue. Ils dormaient tous les deux dans une voiture en pleine campagne. Il a donc en lui des images et des souvenirs qui ont accéléré sa maturité. Son nouvel album est intitulé 662. Il s'agit de l'indicatif téléphonique de la ville de Clarksdale où il est né. Kingfish avance à grands pas. Il est déjà l'un des jeunes artistes blues les plus réputés aux États-Unis. Il remplit des salles de spectacle plus importantes que certains de ses homologues. On lui porte beaucoup d'attention ces derniers temps car il parvient à capter l'attention de la jeune génération. Il est lui-même un jeune homme de 22 ans et même s'il ne connaissent pas très bien l'histoire du blues, les jeunes d'aujourd'hui le suivent avec ferveur. Il est l'un des leurs. Il est en train de fédérer toute une génération qui s'intéressera autant à l'histoire du blues qu'à ses propres compositions.
Son premier album était sorti en 2019. Le second paraîtra, vous venez de le dire, le 23 juillet prochain. Mais vous avez accepté de nous offrir un extrait de ce disque attendu. Voici 662, Kristen Kingfish Ingram.
Ok.
Kristen Kingfish Ingram, une avant-première de l'album qui sortira le 23 juillet et que nous a offert Bruce Iglauer. Bruce Iglauer, il nous faudrait 4 heures supplémentaires pour évoquer toute l'histoire d'Alligator Records. Nous aurions pu parler de Elvin Bishop et Charlie Musselwhite, de Curtis Salgado, de Chris Kane, mais aussi de Johnny Winter, Kenny Neal, Joe Louis Walker, Billy Branch, Tommy Castro, Toronzo Cannon, etc., etc. Je renvoie donc nos auditeurs à ce merveilleux coffret qui célèbre 50 ans de musique authentique et je n'ai plus qu'à vous remercier, Bruce Iglauer, pour votre disponibilité.
Thank you for inviting me and for sharing the music.
Et je signale à nos auditeurs qu'un documentaire consacré à Alligator Records est disponible sur la plateforme audiovisuelle Quest TV, imaginée par Quincy Jones et Reza Akbarali. Merci beaucoup, Bruce Iglauer.
Oh, de rien.
L'émission festive du jour était réalisée entre Chicago et Paris par la toujours rayonnante Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.